Merci de nous avoir rejoints dans la deuxième partie de notre émission et place au focus. Début décembre, nous avions déjà interviewé un commissaire d'exposition, Rohan Zhu, le commissaire de la Biennale, alors que nous n'avons toujours pas fait d'émission spéciale théâtre ou musique, enfin excepté le petit intermède musical de Swann avant Noël. Vous vous demandez sans doute pourquoi, mais pourquoi encore un commissaire d'exposition? Eh bien, j'ai la réponse pour vous. Nina et Swann n'ont en réalité qu'un désir, prendre leur place. Ils se prêtent donc aujourd'hui au jeu et vous livrent les détails de l'expo qu'ils rêvent d'organiser. Et Charlotte a accepté de les accompagner dans leur délire artistique et un peu mégalo. Donc Nina, tu peux peut-être commencer. Si tu étais commissaire d'exposition, quel artiste choisirais-tu d'exposer?
Alors après avoir bien réfléchi, j'ai choisi Rothko. Donc c'est donc Rothko que je souhaiterais exposer. Alors pour vous présenter son œuvre, s'il fallait les décrire, ce serait un peu un blasphème, puisque la beauté des œuvres de Rothko est précisément d'être indescriptible. Mais radio oblige, je vais donc me prêter à l'exercice. Alors il s'agit de grandes toiles, généralement, le plus souvent verticales. Ce sont des toiles de couleur pure, c'est de l'abstraction, mais il ne s'agit pas pour autant de monochrome. Souvent il y a deux, trois, voire quatre couleurs. Une couleur du fond et un ou plusieurs carrés ou rectangles de couleurs. Parfois, celles-ci sont fortement contrastées. Par exemple, il y a des toiles avec du jaune éclatant, de l'orange vif, du bleu cyan. Mais parfois, au contraire, les couleurs se mêlent presque et ne se distinguent que par de fines nuances avec des bruns, des rouges sombres. Donc il arrive souvent qu'on puisse découvrir un aplat de couleurs après coup, après avoir longuement observé l'œuvre. Il apparaît soudain après que l'œil a aiguisé son acuité en quelque sorte. Mais surtout, le plus important dans ces œuvres, c'est qu'il n'y a rien de géométrique. Il ne faut pas imaginer des carrés de fond, des carrés de couleurs différentes tracés sur un aplat de couleurs. En fait, ils sont poreux, ils sont vaporeux à leur entour, et comme si, presque comme si cela avait bavé, comme si à la place de l'huile, Rothko avait utilisé de l'aquarelle. Et donc, ces œuvres, je voudrais les exposer parce que je les trouve véritablement hypnotisantes.
Merci. Charlotte, à qui avais-tu pensé?
Alors moi, j'ai pensé à un photographe américain qui s'appelle Abelardo Morel, qui est... Alors, à la base, il était né en Cuba, à Havana, et après, il est arrivé aux États-Unis et il a travaillé là-bas. Il a commencé la photographie dans le Maine, en fait, près de mon université. Alors, je le tiens encore. Il a fait des images que je trouve magnifiques. Alors, moi, notamment, j'adore sa série qui s'appelle Camera Obscura. Alors, il s'agit de... En fait, il transforme les chambres de sa maison, les chambres d'hôtel, en Camera Obscura. Alors, ils mettent les sacs poubelles, presque les plastiques noirs, sur les portes et sur les fenêtres. Et après, ils percent un tout petit trou pour laisser la lumière entre. Et alors, du coup, toute la chambre est transformée comme dans un énorme appareil photo, en fait. Il fait des images absolument magnifiques qui mélangent un peu. Alors, c'est presque comme des paysages de rêve. On a des lits, mais avec les paysages derrière, ou sinon on a la Tour Eiffel, mais à l'envers. Ce sont des choses qui sont magnifiques et un peu surréales.
D'accord. Et Swann, toi, je crois que c'est un petit peu plus...
Classique.
Mais non, tu es très original.
Je suis très original, effectivement. Non, moi, j'ai pensé plutôt à Miro, bon, qui est quand même le plus surréaliste, un des surréalistes, selon André Breton. Et plus précisément...
Merci pour la citation.
Merci, je t'en prie.
Mais on admire surtout la transition, on passe du surréel de Charlotte
exactement.
Au surréaliste de Swann, c'est fantastique.
Mais on reste dans le fascinant quand même. Et je pense plus précisément aux constellations, c'est une série de tableaux... qu'il a produit dans les années 40, alors qu'il était exilé en France. Et ces tableaux mélangent un certain onirisme, aussi le sensualisme de la représentation féminine, avec les étoiles, justement ces constellations qui deviennent en quelque sorte amoureux de ces représentations féminines, avec la toile qui devient filée, où on devine en fait, plutôt qu'on voit vraiment des yeux, des bouches, des courbes. Et en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que ça s'apparente aussi à des dessins un peu enfantins. Et moi, en fait, c'est ce que j'étais plongé là-dedans depuis ma plus tendre enfance.
Bon. Un homme de l'art.
voilà. Puisque, voilà, ma chambre était un peu décorée, justement, à la Miro.
Ah, bah, d'accord.
Et mes parents sont assez fans de Miro. Donc, là, actuellement, j'ai d'ailleurs des tableaux de Miro. Enfin, pas des vrais, mais pas des originaux. Hélas, je vends des reproductions dans mon appartement. Et voilà.
Ah. Super. Donc, pas d'expo sans lieu, Swan. J'espère que tu as au moins pensé à un lieu digne de ton exposition, autre que ta chambre à coucher.
Oui, autre que mon appartement. Bah, écoute, alors la fondation MACT, qui est à Vence, c'est à Vence, sur la Côte d'Azur, m'a déjà devancé et a placé la barre assez haut dans ce projet, puisque il y a notamment là-bas le jardin Miro qui est particulièrement fascinant. En plus de ça, il y a la collection permanente. Qui s'associe d'ailleurs avec des collections de Fernand Léger, de Braque, etc. Il y a aussi la cour Giacometti. D'ailleurs, vous avez vu que L'Homme qui marche a d'ailleurs battu un record dans les ventes aux enchères là récemment de
oui, 89 millions.
Oui, voilà, des millions
de plus, sans doute même.
Battu Picasso, bon. Et bon, au-delà de ça, le premier lieu qui m'est venu à l'esprit en fait, c'est le sommet en fait du Dôme de Milan. Plutôt de nuit, puisque je pense qu'un éclairage un peu intimiste contrasterait avec la lumière de la ville qu'on peut voir tout autour. Bon, si tant est qu'on pourrait monter effectivement en haut du Dôme de Milan de nuit, ce qui n'est sûrement pas possible à l'heure actuelle. Et c'est vrai que ce serait un lieu un peu entre terre et ciel, ouvert, un peu en dehors du monde, et qui serait vraiment approprié à cet onirisme que je décrivais tout à l'heure.
Et toi, Charlotte?
Alors moi, j'avais envisagé plutôt qu'une seule exposition, mais plusieurs. Alors, dans l'idéal, dans chaque université française, par exemple, il y aura quelques photographies d'Abelard de Morel, mais aussi avec une espèce de démonstration. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, on pourrait construire une caméra obscura dans l'école même, parce que pour moi, vraiment, la magie de ces photos, c'est de montrer le processus photographique elle-même et de voir, je ne sais pas à quel point c'est magique et c'est étrange. Et aussi, alors lui, par exemple, le temps d'exposition, c'est envers 8 heures, voire plus. Alors c'est vraiment exactement à l'inverse des photos numériques maintenant. Et tout le monde a son portable, son petit appareil qui peut faire les clichés très vite. Mais j'aimerais bien que les étudiants surtout puissent apprécier aussi l'art de la photographie. Et ça rappelle aussi la naissance de la photographie avec Niépce et Daguerre, et qu'il y a beaucoup de magie qui reste quand même à voir.
D'accord. Et toi, Nina?
On a hâte de voir ça à l'ENS. Alors, alors moi, en fait, je me suis dit que ces œuvres que j'ai donc dit hypnotisantes, je voudrais les mettre au défi. Parce que quand elles sont dans un musée, et pour toute œuvre dans un musée, lorsqu'on y va, il est entendu qu'on va regarder des œuvres, on est donc en quelque sorte disponible, et qu'on les apprécie ou non, on est tout entier à la contemplation de tableaux, d'œuvres d'art. Et donc je me suis dit que il s'agissait de mettre l'œuvre en concurrence pour voir si elle parvenait toujours à exercer ce pouvoir fascinant. Donc je me suis dit où sera-t-elle en concurrence? Dans quel lieu l'œuvre pourra être exposée? Alors, il ne s'agissait pas de la dissimuler, parce que ça aurait été de la triche. Dans quel lieu l'œuvre sera-t-elle en danger? Eh bien, un des lieux les plus dangereux qui m'est venu à l'esprit, c'est finalement un lavomatique. Je me suis dit, en effet...
C'était donc ça, la surprise.
Moi, je m'attendais trop à t'entendre.
C'est vrai, mais non, ça part de mon expérience personnelle. Et je me suis dit, en effet, qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant que de contempler le linge qui tourne dans une machine? Et plus encore, je dirais même, le linge qui tourbillonne dans le tambour du séchoir. Parce que dans le séchoir, il n'y a plus la pesanteur de l'eau, c'est beaucoup plus aérien. C'est presque aussi poétique d'ailleurs que la chute des habits chez Christian Boltanski, dans la Monumenta. Et donc je me suis dit, voilà, placer des œuvres de Rothko au-dessus de séchoirs électriques de lavomatique et voir du pouvoir de fascination de l'œuvre ou du séchoir à Abby l'emporte. Et donc, en fait, finalement, ici, c'est un appel au directeur de la Tate moderne qui écoute assidûment Transversard. Je cite le Times du 27 janvier. Transversard on Transistor Radio is the best broadcast ever dedicated to art. Hein, si c'est pas un hommage, quand même. Et donc, monsieur le directeur, si vous entendez mon appel, je serais ravie d'installer quelques Rothko dans le lavomatique situé en bas de chez moi.
Et une dernière question, le tarif ce serait quoi? Est-ce qu'il y aurait au moins un pass jeune?
Ah, le prix d'une lessive.
Le prix d'une lessive. Et toi, Swan?
Moi, je crois que c'est payant de monter sur le toit du, enfin, sur le sommet de la cathédrale de Milan. Mais moi, je suis pour l'accès libre à l'art.
Ah. Et oui, moi, ce serait complètement gratuit.
Pour mais il faudrait une carte d'étudiant, en fait, pour toi.
Ça dépend, les profs aussi sont invités.
D'accord, et ben on a, merci, on a tous très hâte de voir ce que ça donnera. Merci surtout à Charlotte de nous avoir rejoints. Et si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à nous écrire sur transistor@hotmail.fr. En attendant de retrouver dans quelques années Rothko dans un lavomatique, Miro sur le dôme de Milan et Morel dans les écoles, je vous propose de revenir à l'actualité culturelle du moment avec notre sixaine lyonnaise. Et oui, continuons sur notre lancée et ne nous arrêtons pas là. Restons dans l'air du temps. C'est en effet le titre de cette expo à la bibliothèque de la Part-Dieu à partir du 16 février, composée de photographies de Béatrice Ropers qu'elle a prises au sein de diverses institutions gériatriques. Lyon Campus, eux, vous offrent des places pour trois pièces. Ça peut être très intéressant. Tu regarderas sur le... Moi, je trouve que ça a l'air très intéressant. Je suis désolée. Bon. Excuse-moi, mais toi, la semaine dernière, tu nous as proposé Séoul. Alors moi, je propose quelque chose de très accessible.
Mais je disais pas que c'était pas intéressant. Je présumais juste que ça ne serait sans doute pas très joyeux.
Ça a l'air très beau. Ça a l'air très poétique et très...
pas non plus très allègre.
Oui. Je peux finir la sixième. Oui, bon.
Continuons à parler.
Voilà, donc Lyon Campus vous offre des places pour trois pièces de théâtre différentes à l'espace 44, au Théâtre des Marronniers et au TNP. Rendez-vous sur leur site internet pour participer au concours et gagner des places de théâtre gratuites. Et enfin, gardons notre sérieux pour célébrer le nouvel an chinois qui tombe cette année, le 14 février, et commencer l'année du tigre en beauté. L'ENS vous convie à des tables rondes les jeudis 11 et 12 février organisées par l'Institut d'Asie orientale, ainsi qu'à la projection d'un documentaire le jeudi sur les sosies de Mao et en présence du réalisateur Zhang Bingjian. Je vous dis donc Xin Yan Kuai Le, bonne année, et vous invite à nous retrouver à la rentrée des vacances de février pour de nouveaux épisodes de Transversard, lors desquels vous plongerez avec nous dans le rock underground lyonnais, découvrirez les joies du Messie de Handel avec la chorale de l'école, ou encore en apprendrez un peu plus sur le plus sacré de tous les arts, l'art culinaire.
Et oui, l'art culinaire. Et si vous avez des remarques, des questions, ou bien si vous voulez participer évidemment à ces émissions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous écrire sur transistor@hotmail.fr.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à Charlotte de s'être prêtée au jeu. Et à très bientôt sur Transistor.